Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revues de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4 comme tous les mercredis. On vous donne rendez-vous de 17h à 18h pour vous parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Aujourd'hui, émission spéciale consacrée au Dry January ou le mois sans alcool avec deux invités, le docteur Claire Farina qui est médecin psychiatre et addictologue au XAPA de Trappes. Le XAPA, c'est le centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie qui est rattaché à l'Institut de promotion de santé de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et nous aurons également un témoignage d'un patient suivi par le XAPA, une personne qui était dépendante à l'alcool et qui a arrêté il y a presque un an. Elle nous parlera de son parcours et de son suivi par le XAPA. En fin d'émission, nous retrouvons la Minute Conso de Pierre Joannet de l'UFC Que Choisir. Et cette semaine, Pierre nous parle de la nouvelle règle concernant les numéros de démarchage téléphonique. Allez, on commence cette émission en musique et on revient juste après avec notre invité pour parler du mois sans alcool. A tout de suite.
Restablecer la conexión, actualízame la aplicación.
écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Allez, on accueille tout de suite notre premier invité.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Docteur Claire Farina, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, addictologue du Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie de Trappes, le XAPA, qui est basé à l'IPS, donc l'Institut de promotion de la santé de Saint-Quentin-en-Yvelines, juste à côté de nos studios, hein, ici à Trappes, avec nous pour parler du dry January. Alors, c'est la seule fois que je vais utiliser l'anglais. Hein. Maintenant, je vais dire mois sans alcool, qui a débuté le 1er janvier et qui durera tout le mois de janvier. Alors, en quoi consiste justement ce mois sans alcool ?
Alors, le mois sans alcool, c'est sur le modèle du mois sans tabac. C'est un défi sur le mois de janvier, donc juste après les fêtes. Ouais. Donc, les fêtes, souvent, on a fait des excès, on a fait un petit peu la fête. Et donc, c'est l'occasion de commencer l'année par un mois entier sans alcool. Donc, un défi de passer le mois sans boire du tout d'alcool.
Alors, le nom anglais, justement, vient du fait que ça a été lancé par une organisation britannique. Ce mois sans alcool en 2013.
Il y a d'autres antécédents dans d'autres pays, en Islande, à différents endroits, mais c'est surtout les Anglais qui ont pris ce concept.
Alors, existe-t-il un accompagnement justement pour les personnes qui sont désireuses de faire ce mois sans alcool ? Voilà, comment ça se passe concrètement pour une personne qui le fait ?
Alors, c'est comme on peut le faire en candidat libre, on peut dire, donc on peut juste se dire chez soi, et d'ailleurs je pense que c'est la majorité des personnes qui le font chez eux, qui disent, bah tiens, il y a le dry January, bon bah j'essaye pendant le mois de pas du tout consommer d'alcool. Sinon, vous avez le même modèle que le mois sans tabac, donc il y a un site web sur lequel vous pouvez vous inscrire, où vous avez le défi collectif, et tout, vous avez régulièrement des mails qui vont vous encourager, des conseils, vous pouvez vous connecter sur le site, parler avec des professionnels, il y a des blogs, des chats, plein de choses qui sont organisées autour de ça.
Est-ce que c'est efficace, justement ? Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on a des chiffres en disant que sur 100 personnes qui ont fait le dry January, là, il y a, je sais pas, 50%, 60% après qui ont arrêté. Voilà, est-ce qu'on a des chiffres, quelque chose comme ça ?
Alors, l'objectif du dry January est, à ce propos-là, assez différent du mois sans tabac. Le mois sans tabac, c'est vraiment le challenge où j'arrête de fumer pendant un mois et le but, après, c'est d'arrêter de fumer. Le dry January, c'est un peu différent. C'est plutôt tester le lien qu'on a à l'alcool et voir si c'est l'occasion de voir comment ça se passe ma vie s'il n'y a plus d'alcool au quotidien. Donc ça peut permettre de tester différentes choses et donc par exemple sur le mois sans tabac on va avoir des résultats de combien de personnes ont arrêté de fumer et là si vous regardez sur le site du Dry January vous aurez plutôt combien de personnes ont trouvé qu'ils étaient mieux, qu'ils dormaient mieux, qu'ils avaient perdu du poids puisque l'alcool donne beaucoup de calories. Donc on sera plutôt sur des critères d'efficacité de ce type parce que le but c'est pas de dire aux gens l'alcool c'est mal, faut arrêter, c'est mauvais pour la santé. C'est pas forcément bon pour la santé, on est bien d'accord. Mais l'objectif du Dry January, c'est vraiment de se questionner soi sur sa consommation d'alcool et de voir si on est mieux ou moins bien sans alcool.
D'ailleurs, pourquoi juste un mois alors pour ce Dry January ?
Est-ce qu'on sait qu'un mois, c'est le temps qu'il faut au cerveau pour en créer une habitude ? Donc, et que ça nous permet aussi de passer une première semaine, parce que par définition, quand vous changez vos habitudes, la première semaine, elle pique un peu. On va avoir, tiens, j'ai mon habitude, ça demande une adaptation. Et au bout d'un mois, on est rodé en quelque sorte. Donc, on est prêt à passer sur une dynamique différente. Et on sait que si on veut en créer une habitude, quelle qu'elle soit, hein, on sait que c'est au bout d'un mois que les choses peuvent vraiment changer et s'ancrer dans le quotidien.
Justement, si on se rend compte qu'en faisant ce mois-là, ce dry January, c'est difficile et qu'on a peut-être un problème avec l'alcool, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Qu'est-ce qu'on peut faire en tout cas ?
Faut nous appeler.
ou est-ce que déjà la prise de conscience n'est pas une victoire en soi ?
Ça fait aussi partie des objectifs du Dry January, c'est-à-dire que le Dry January, il est bien en population générale, c'est-à-dire pour les gens qui n'ont pas de problématique en fait alcool. Parce que si on a une problématique alcool, en pratique, le Dry January, c'est pas spécialement une bonne idée, à part pour s'en rendre compte effectivement, comme vous le disiez très justement. Mais si on a une problématique alcool, on va se confronter au fait qu'on n'y arrive pas, donc on va plutôt avoir un vécu d'échec, les autres vont vous dire vous manquez de volonté, etc. Enfin, tout ce qu'on peut entendre. Et si on n'arrive pas à faire le dry January, ça peut être intéressant de consulter son médecin traitant, de faire le point vraiment sur sa consommation d'alcool avec un professionnel de santé, parce qu'effectivement, ça veut peut-être dire qu'on est sorti d'un cadre récréatif ou plutôt sympa de la consommation d'alcool et qu'on commence à s'acheminer doucement vers une dépendance.
Alors, quels sont justement, si on parlait de bienfaits de l'arrêt de consommation d'alcool, quels sont les bienfaits justement qui sont avérés sur la santé, sur l'humeur ou sur différentes, voilà, différents aspects de la vie?
Alors, d'un point de vue psychique, il y a deux choses assez évidentes quand on arrête de consommer de l'alcool. C'est que l'alcool, il a un côté assez dépressogène. C'est-à-dire que quand on en prend, on va mieux, tout est rose, on est
l'euphorie,
super
un peu.
Sympa, exactement. Ouais. Sauf qu'en fait, ça puise dans les réserves. C'est-à-dire que le lendemain, vous allez le payer, en quelque sorte. Même si on n'a pas de gueule de bois et que ça ne va pas jusqu'à « je passe toute la journée au lit », on est un peu plus morose, un peu plus anxieux, un peu moins bien, qu'on le perçoive consciemment ou pas. Mais si on se dit « tiens, je suis moins bien », ouais, mais c'est peut-être parce que j'ai un peu consommé d'alcool. Et donc quand on a une consommation quotidienne, en fait, ces choses-là peuvent être assez insidieuses. Et quand on arrête la consommation d'alcool, on se rend compte qu'on est plus en forme, qu'on a une meilleure résistance à l'extérieur et qu'on est moins anxieux aussi. Il y a un rôle sur le sommeil. L'alcool est un inducteur de sommeil, tout le monde le sait. Quand on prend un peu d'alcool, on peut dormir plus facilement. Par contre, ça déstructure les cycles de sommeil. Donc on sait qu'on aura un sommeil moins réparateur. Si on a un peu tendance à faire des apnées du sommeil, ça peut empêcher de respirer bien pendant la nuit. Donc en fait, on va se retrouver avec un sommeil qui sera de moins bonne qualité. Et donc, en arrêtant l'alcool, on se retrouve avec un sommeil amélioré et donc plus de forme dans la journée. Au niveau physique, on peut aussi avoir de meilleures performances sportives, on peut avoir pas mal de choses. Et les gens qui font le dry January, effectivement, disent souvent que ça leur a fait perdre du poids. L'alcool, en fait, c'est un grand pourvoyeur de calories, un peu caché, qui est différent selon le type d'alcool, mais c'est plus fort que les matières grasses en termes de kilocalories. Et donc, quand on arrête l'alcool, on a une diminution importante de l'apport en calories. C'est pour ça que souvent, au début, on a tendance à compenser un peu par le sucre, parce que justement, notre corps va être en recherche de ça. Ça se corrige au bout de quelques temps. Et donc beaucoup de gens rapportent une perte de poids et de se sentir mieux dans leur silhouette aussi.
Donc tous les bienfaits, bon, il y en a plusieurs qu'entraîne justement l'arrêt de la consommation d'alcool. D'ailleurs là on parle d'arrêt de la consommation d'alcool, on ne parle pas de diminuer ou de réduire la consommation.
Tout à fait. Ouais, tout à fait. Le dry January, c'est pour ça que c'est vraiment un défi de population générale. Quand il y a une problématique alcool, le dry January, c'est ce qu'on disait au départ, il y a d'autres choses à faire, de réfléchir à une diminution de la consommation qui va être mieux en termes de risque cardiovasculaire, en termes de risque de cancer. Rien que de réduire sa consommation, avant on était beaucoup sur abstinence, il faut complètement arrêter quand on a une problématique alcool. Là, on sait que en termes d'espérance de vie, de qualité de vie, déjà diminuer si on se sent pas d'arrêter, ça améliore très nettement les choses et ça peut permettre de restaurer une qualité de vie, d'augmenter l'espérance de vie et le confort au quotidien aussi.
Justement, en parlant de quantité de consommation, quelles sont les recommandations sanitaires en termes de consommation d'alcool par jour? Voilà, est-ce que ça dépend de l'âge, est-ce que ça dépend du sexe? Voilà, comment...
Ça dépend du pays où vous êtes.
Est-ce que ça dépend de l'alcool en question?
Non, c'est donc l'alcool en recommandation, ça se calcule en unité d'alcool. Donc une unité d'alcool, c'est l'équivalent de 10 grammes d'alcool. Donc c'est ce qu'on trouve dans un verre de vin, un demi de bière, si à 5 degrés. Hein, si vous êtes sur une bière de 50 centilitres à 8 degrés, vous avez 4 unités à l'intérieur. Donc faut adapter. Une bouteille de vin ou de gréement, de mousseux, ça fait 7 unités. Une grande bouteille d'alcool fort, ça en fait 22. L'équivalent d'un shooter, donc de 3 centilitres d'alcool fort, ça en fait une. Donc, à partir de ces différents éléments, on sait combien d'unités d'alcool on consomme. Et en France, les recommandations sont pareilles pour les hommes et pour les femmes. C'est 10 unités par semaine pour tout le monde, en essayant d'avoir 1 à 2 jours par semaine sans alcool.
10 unités par semaine. Donc, ça équivaut, si je transforme ça en verre de vin, à 10 verres de vin par
Exactement,
semaine.
Tout okay. à fait. Ouais. Maximum.
Maximum.
Si on est à moins, c'est mieux.
Alors justement, je redonne le site internet, Dry January. Alors DRYJANUARY, pour ceux qui n'ont pas fait d'anglais. Dry January, donc le janvier sec, si on traduisait littéralement, .fr. Et on va passer à une deuxième partie d'émission, Dr Farina, parce que je vais vous donner quelques idées reçues sur l'alcool et puis vous allez me commenter tout ça. C'est ce qu'on entend régulièrement. D'ailleurs, il y en a une que j'ai pas mis dedans. Et vous m'y avez pensé tout à l'heure en parlant de santé. J'avais souvent entendu l'argument de un verre de vin par jour. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le cœur, notamment. Voilà, c'est ce que je sais pas si je l'ajoute celle-là.
Parce qu'on ne l'avait pas prévu. Ben, on peut commencer par celle-là. En disant que c'était bon pour le cœur, pour le système cardiovasculaire. Voilà.
Alors, j'aurais aimé vous répondre oui, mais en fait, non. le vin, par définition, il y a des produits qui sont bénéfiques à l'intérieur. Malheureusement, il y a de l'alcool et l'alcool est mauvais pour le système cardiovasculaire, surtout consommé de manière régulière et continue. Et surtout, c'est un cancérigène notoire. Donc, si on en consomme tous les jours, les cancérigènes, il ne faut pas les consommer tous les jours, parce que du coup, les cellules n'ont pas le temps de se régénérer parce qu'elles se font attaquer régulièrement et ça fait muter leur ADN. Donc malheureusement, non, un verre de vin par jour n'est pas bon pour la santé.
Alors, on parle souvent du tanin, j'espère que je ne dis pas de bêtises, n'étant pas un spécialiste du vin, voilà, qui était bon pour la santé, justement. Une petite composante qu'on retrouve dans le raisin, notamment. Voilà.
Tout à fait, oui.
Mais il y a autre chose avec, c'est ça, c'est ce que je venais de dire.
Malheureusement, oui.
Non, pas que ça. Alors, les hommes supportent mieux l'alcool que les femmes.
Alors, oui et non. Parce qu'en fait, quand on consomme de l'alcool, à quantité égale, l'alcoolémie va être supérieure chez les femmes, pour une raison de répartition de masse graisseuse,
ouais,
en fait.
Ouais.
Donc, si on consomme un verre, une femme va se retrouver avec une alcoolémie un peu plus élevée qu'un homme. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'alcool...
Les hommes supportent mieux l'alcool, c'est pour ça qu'on dit ça.
Exactement. Ouais. Mais en fait, c'est faux. C'est juste que l'alcoolémie sera différente d'une personne à l'autre, selon qu'on est un homme ou une femme.
Alors, on est en hiver, même s'il ne fait pas encore trop froid. Mais l'idée reçue numéro 3, du coup, l'alcool réchauffe.
Alors, l'alcool, en fait, provoque une dilatation des petits capillaires. Donc, les capillaires, c'est les vaisseaux qu'on a aux extrémités du corps, donc au niveau des mains, au niveau des pieds. Quand on a froid, ces capillaires ont tendance à se resserrer pour permettre que le sang reste plutôt au niveau du cœur. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir les mains un peu... qu'on va avoir les mains froides et qu'on va avoir les mains blanches aussi, parce que le sang circule moins à cet endroit-là. L'alcool a la capacité de rouvrir ces vaisseaux-là. Le problème, c'est que si le corps ferme les capillaires, c'est pour préserver la chaleur. En fait, c'est pour que la chaleur ne s'enfuit pas par les capillaires. Donc, si l'alcool les rouvre, on va avoir en fait une déperdition de chaleur. Donc, sur le moment, on va avoir les mains chaudes, puisque le sang va y revenir plus facilement. Donc, on va se dire, tiens, l'alcool m'a réchauffé. En pratique, on risque de se retrouver en hypothermie si ça dure trop longtemps, parce qu'on aura une perte de chaleur.
L'alcool coupe la soif et désaltère.
Alors, c'est plutôt l'inverse.
Alors, c'est des vraies idées reçues. Hein, je ne les ai pas inventées. Hein.
C'est plutôt l'inverse. On a tous à l'esprit qu'une petite bière, ça hydrate bien, surtout quand il fait chaud. En fait, ça a plutôt tendance à déshydrater. Si vous consommez de l'alcool, pensez à bien vous hydrater derrière par des softs, en particulier avec le soft le plus courant, c'est-à-dire de l'eau. Parce qu'on peut avoir paradoxalement une déshydratation clairement liée à l'alcool. C'est d'ailleurs ce qui donne mal à la tête le lendemain. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut s'hydrater le lendemain.
D'accord. Alors, l'alcool s'élimine plus vite si on fait de l'exercice.
Non. Ça ne fait pas éliminer l'alcool plus vite. En tout cas, le métabolisme est indépendant de l'exercice physique.
Ça peut rejoindre aussi ce qu'on vient de dire. L'alcool donne des forces.
Il donne l'impression de donner des forces, parce que l'alcool, c'est un bon antalgique, c'est un antidouleur, en fait. Si vous cognez sous alcool, c'est le lendemain que vous allez vous dire « mince, je me suis pété le poignet », par exemple. Parce que c'est un excellent antalgique et il y a beaucoup de gens qui l'utilisent comme tel. Donc on a l'impression, donc ça donne l'impression que j'ai pas de fatigue musculaire parce que de toute façon, j'ai pas mal. Et ça donne aussi, comme ça trouble la vigilance et que ça trouble les capacités de visualisation et de réflexion autour des choses, on se sent capable d'énormément de choses. En pratique, on a exactement la même force physique et il faut quand même faire attention si vous ne voulez pas vous retrouver avec le poignet cassé.
Alors, si je ne dis pas de bêtises, historiquement, en tout cas, il y a quelques centaines d'années, c'est comme ça qu'on anesthésiait les personnes qu'on voulait, qui ont voulu faire des petites opérations ou des petites choses.
Tout à fait.
Voilà, c'était avec l'alcool.
On le voit encore dans les films.
Ouais, dans les films.
Les pirates, ils font beaucoup ça.
L'alcool est moins toxique s'il est dilué dans l'eau.
Vous avez la même quantité d'alcool que vous le diluiez ou pas, donc c'est pareil, si vous le diluez dans l'eau, vous serez moins déshydraté, par définition, après vous aurez la même quantité d'alcool et donc la même toxicité au final.
Les idées reçues des fois sont assez marrantes. L'alcool développe les réflexes.
Il a plutôt tendance à les diminuer. Je vous déconseille la conduite, que ce soit d'un vélo ou d'une voiture sous alcool. Alors, on se sent, par contre, en fait, capable. C'est là tout le danger de l'alcool, c'est que sous alcool, vous avez l'impression que vous pouvez tout faire. Moi, je peux parler japonais sous alcool sans aucun problème. Mais si un japonais est en face de moi et qu'il n'est pas alcoolisé, il se rendra bien compte que c'est pas le cas. Mais ma perception des choses, mon jugement va être altéré et me donner l'impression que j'en suis parfaitement capable. Mais si je me voyais dans cette situation, conduire par les japonais ou autres sous alcool, je me rendrais bien compte qu'en pratique j'en suis parfaitement incapable et qu'il vaudrait mieux me prendre mes clés, quoi.
Alors on a vu notamment des personnes alcoolisées par exemple sauter du 10e, 11e chambre d'hôtel dans des piscines en étant persuadées que voilà, ils pouvaient le faire.
Oui, ça altère le jugement.
Et ça a fait plusieurs drames. Ouais.
Malheureusement.
L'alcool ne fait pas grossir.
Alors,
on en a parlé tout à l'heure par rapport à ceux qui arrêtent. Ouais.
En fait, l'alcool, si vous en consommez beaucoup, va finir par remplacer l'alimentation parce qu'en fait, ça va vous apporter les calories dont vous avez besoin. Donc, si on prend que ça, effectivement, on va pas forcément grossir. Par contre, et quand bien même, il y a certaines personnes qui, quand elles arrêtent l'alcool, nous disent bah, « je prenais plus que ça et là, j'ai repris une alimentation, je comprends pas, je mange plus qu'avant et je perds du poids ». Donc, l'alcool est un grand pourvoyeur de calories et globalement, ça fait plutôt prendre du poids qu'en perdre.
N'être jamais ivre est bien la preuve que l'on tient bien l'alcool.
Alors,
si on boit et qu'on n'est jamais ivre, ben c'est bon, quoi.
Alors, ça montre qu'on tient bien l'alcool, oui, mais c'est pas forcément bon signe. Ça montre qu'on a une tolérance à l'alcool et donc on est capable d'avoir avec moins de problèmes cognitifs, hein, donc moins d'altération des capacités quand on consomme de l'alcool. Par contre, l'alcool garde son potentiel de nuisance et on risque d'y être plus exposé qu'un autre parce que justement on tient bien. Donc on a une limite qui va être plus loin. Si on est un peu pompette assez rapidement, spontanément, on va se dire bon. Il faut que j'arrête. Alors que si on tient bien, on peut en consommer plus. Donc du coup, on augmente son risque cardiovasculaire, du coup, on augmente son risque de cancer. Et on ne se rend pas forcément compte que ça a quand même un impact au niveau de la mémoire, des capacités d'attention, de concentration. Et on peut se faire piéger. Donc il faut vraiment avoir une vigilance. Et au maximum, si on tient bien l'alcool, ça veut dire qu'on consomme trop et que notre organisme s'y est habitué. Donc si on se rend compte qu'on tient bien l'alcool, c'est plutôt une indication à ralentir et à se dire, bah voilà, si je ne consomme pas pendant un certain temps, est-ce que je vais toujours tenir autant? Il faut plutôt que ça amène à se poser des questions.
Alors, une autre idée reçue, celle-là, elle va questionner aussi peut-être notre rapport culturel avec le vin, notamment, ou avec la bière. Boire une bière ou du bon vin, ce n'est pas boire de l'alcool.
Alors, on parlait des unités, du calcul des unités d'alcool. Il y a de l'alcool dans ces breuves. Si vous regardez les anciennes pubs, on les trouve facilement sur Internet. Avant, vous aviez le bon alcool qui était effectivement le vin ou la bière, et le mauvais alcool qui était la vodka, tout ce qui
les sont, alcools forts.
Exactement, à base d'autres qui sont produits à base d'autres choses que du vin ou que du raisin ou de l'orge. Alors en pratique, malheureusement, non, c'est l'éthanol en fait, c'est la molécule d'éthanol, donc peu importe la boisson dans laquelle elle se trouve, c'est aussi nocif l'un que l'autre. Consommer avec modération, c'est toujours mieux.
Et enfin, une dernière, l'alcool n'est pas une drogue.
En fait, c'est un peu la pire des drogues parce qu'elle est en vente libre et qu'elle s'inscrit énormément dans une culture, qu'elle est énormément valorisée par la population, qu'elle a un potentiel relativement insidieux et on peut vite se faire piéger. Et elle a un potentiel assez, comme toutes les drogues, vous allez me dire, mais elle a un côté assez sympa, ça rend, ça désinhibe, ça fait passer des bonnes soirées, toute la population en consomme ou au moins a essayé, elle a un côté gustatif, hein, y a plein de choses qu'on peut y associer. Il faut faire attention de pas se faire piéger. C'est à ça que sert le Dry January. C'est vraiment de faire le point par rapport à sa consommation d'alcool et se dire, bon, bah, c'est bon, là, je contrôle, je suis sur quelque chose de festif et de sympa, ou là, vraiment, il faut que je fasse attention pour ma santé et tout ce qui va avec.
Voilà, donc merci pour les réponses à ces idées reçues, alors que j'ai trouvé sur Internet, il y en a encore plusieurs qui circulent et qui continuent de circuler.
Et pour compléter juste ma réponse sur la dernière question, au centre de consultation où on est, la moitié de nos consultations, voire plus en fait, c'est en lien avec l'alcool.
Ah oui,
donc nous, on est un centre de référence pour tout ce qui est drogue, toxicomanie, etc. Et on se retrouve avec énormément de gens. Les principales représentation des drogues, c'est l'alcool et le tabac dans nos consultations.
D'accord. Et donc, encore une idée reçue. Voilà. On pourrait penser que voilà, c'est pour soit du cannabis ou d'autres drogues dures.
Ce qui piège le plus les gens, c'est l'alcool.
C'est l'alcool. Merci en tout cas, docteur Claire Farina. Je rappelle que vous êtes psychiatre addictologue du Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie de Trappes, donc le XAPA, qui est basé à l'Institut de promotion de santé de Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci beaucoup.
Avec plaisir. Au revoir.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter, d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie, parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. J'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Si je le veux, je l'aurai.
N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux.
Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé, oublie qu'elle t'a perdu. Tout ce que t'avais, si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais.
Vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Comme tous les mercredis, on se retrouve de 17h à 18h pour vous parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Je vous le disais tout à l'heure en introduction, le thème principal de cette émission, c'est le mois sans alcool. Et à cette occasion, nous avons un témoignage d'une personne qui était dépendante à l'alcool et qui est suivie donc par le XAPA, le Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Cette personne, bien sûr, nous ne donnerons pas son nom et sa voix sera modifiée car notre témoin du jour a souhaité, on le comprend bien, préserver son anonymat. On écoute son témoignage.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de témoigner à l'occasion du Dry January, du mois sans alcool. Vous étiez dépendant du coup à l'alcool et vous avez décidé d'arrêter l'année dernière. D'abord, pourriez-vous nous raconter, pour essayer d'en savoir plus sur votre parcours et comment vous avez réussi à sortir aussi de cette dépendance, est-ce que vous pourriez nous raconter d'abord comment vous êtes devenu dépendant à l'alcool ?
Donc tout d'abord j'ai 45 ans, je suis issu d'une famille où mon père buvait, mon grand-père maternel buvait. Mmh. Ce sont les deux modèles à partir desquels je me suis construit, les deux modèles masculins. J'ai commencé à boire en fait dès que j'ai pu le faire, on va dire, hein, c'est-à-dire dès l'âge de 16 ans.
D'accord.
À l'occasion de sorties lycéennes puis étudiantes, j'ai commencé à boire beaucoup, à boire trop, à boire plus que la moyenne dès l'âge de 16 ans. C'était à l'époque dans des occasions festives, des sorties, des fêtes, et je ne buvais rien en semaine. Ça a duré comme ça toutes mes années étudiantes, mais toujours un peu plus que les autres. Dans l'excès, dans je me rappelle de rien, je sais pas comment je suis rentré chez moi, ça m'arrivait plus souvent qu'aux autres, déjà. Suite à ça, je me suis mis en couple, je me suis séparée en 2017. Donc suite à ma séparation, je me suis retrouvée en garde alternée avec un enfant. Et donc, à mi-temps, papa, à mi-temps libre, donc davantage de temps libre égale davantage de sorties.
Ouais.
Ma consommation a accéléré à ce moment-là. Ensuite, je me suis mis en couple avec une femme qui également buvait beaucoup. Ouais. Et on s'est mis à boire ensemble. Donc, ouais. Encore une accélération. Ça, c'était en 2017-18.
D'accord.
2020, le confinement. Les derniers verrous ont sauté. C'est-à-dire boire les lundis, mardis. À partir du confinement de mars 2020, je me suis mis à boire tous les jours, 7 jours sur 7.
D'accord.
2021 arrive, l'année suivante, je me suis retrouvé dans une phase de mal-être important. Un travail dans lequel je ne trouvais plus de sens. Une relation, j'ai changé de compagne, je me suis retrouvé avec une femme mariée, une relation adultérine.
Ouais.
Une relation qui m'a fait énormément souffrir et qui m'a fait encore augmenter ma consommation.
Mmh.
Voilà, une situation sentimentale très déstabilisante.
Mmh.
On arrive fin 2021, je commençais à avoir des douleurs au foie.
Ouais.
J'ai fait des examens médicaux qui ont révélé que mon foie était en mauvais état, donc j'ai fait tout de suite un lien avec ma consommation d'alcool. J'ai pris un rendez-vous, j'en ai parlé à mon médecin traitant, donc, qui m'a renvoyé vers le CSAPA de Trappe. Le premier rendez-vous a mis près de 4 mois quand même, hein. Entre le premier signalement à mon médecin traitant et le premier rendez-vous spécialisé, 4 mois. 4 mois pendant lesquels je buvais tous les jours. Tous les jours. Et ça n'a fait que d'empirer. Et à la fin, c'était une véritable mise en danger.
Ouais.
La conduite, la gestion, le boulot où j'arrivais pas bien dessoulé. Donc j'étais en train de me mettre vraiment en danger. Ouais. La santé, la conduite et le boulot. L'étape suivante, c'était la garde alternée que peut-être j'aurais mal géré.
Ouais.
Donc j'étais en train de me mettre en danger de façon considérable. Donc partant de, j'avais quand même, en 2019, 2020 et 2021, réussi à faire des drives, des rebates, des campagnes publicitaires.
Et c'était complètement réussi sur ces mois, c'est-à-dire pendant
un mois, ouais. Vous aviez réussi
ouais,
à plus boire du tout.
Ouais. Ouais, mais après ça a dégringolé dans les conditions que je vous indique.
Mm-hmm.
Tout un tas de facteurs qui sont venus agir sur une fragilité que j'ai depuis toujours.
Ouais.
Ensuite, donc le traitement a commencé, le suivi a commencé au CSAPA le 30 janvier. Nous sommes le 10 janvier ou le 11, je ne sais plus.
Ça fait bientôt un an.
Ouais, j'ai bu depuis un week-end, c'est tout.
D'accord.
C'était mi-octobre, c'était un congrès professionnel qui est très festif et là j'avais décidé pour deux raisons. Un, j'avais envie de vivre mon congrès comme je le vis toujours, c'est un temps très important pour moi.
Ouais.
Et deux, c'était un test.
Mmh.
Je n'avais donc pas bu depuis 9 mois presque. Et depuis, je n'ai rien bu.
Donc, quand vous dites que c'était un test, c'était aussi pour voir si vous étiez sorti de cette dépendance.
Absolument.
Ouais.
Absolument. Au bout de 9 mois, sans une goutte, ce qui n'était pas arrivé depuis l'âge de 16 ans. Et en fait, depuis le 15 octobre, donc, fin de ce congrès professionnel, je n'ai pas bu une goutte. Ouais. Et je n'en ai aucune envie.
D'accord. Donc, c'est l'envie aussi qui vous a quitté. C'est-à-dire que quand vous avez bu là, le 15 octobre dernier, lors de ce congrès, est-ce que ça vous a... voilà, est-ce que c'était quelque chose qui vous a fait plaisir? Est-ce que vous avez trouvé ça, je sais pas, un peu bizarre? Voilà, comment vous étiez, dans quel état d'esprit
En fait, non, je pense en plus que j'aurais pu m'en passer.
En plus, oui, d'accord.
J'aurais pu m'en passer parce que je suis reparti dans les outrances. Voilà, on ne se rappelle pas de tout. On ne profite pas des gens comme il faudrait.
Ouais.
J'aurais pu m'en passer.
Ouais.
En fait, ce que j'ai surtout réussi à faire en un an, c'est à changer mes habitudes.
Ouais.
Changer mes habitudes, et ça, c'est énorme.
Ouais.
Parce que changer près de 30 ans d'habitude, ça ne se fait pas comme ça.
Ouais, c'est un long travail, effectivement.
Et sans l'accompagnement, j'y serais pas arrivé.
Ouais. Ça, c'est une étape indispensable. Ouais.
Si j'ai un seul message à passer, il faut savoir aller chercher de l'aide. Mmh.
Justement, en parlant de ça, en parlant de cette aide, quelle était vous l'image qu'avez de vous, je sais pas, famille, proche, amis? Est-ce que vous étiez connu pour... est-ce qu'on vous le disait? Est-ce qu'il y a des...
Oui, mais ça fait 20 ans qu'on me dit que je bois, ça fait 20 ans qu'on me dit que je bois trop. Mmh. Mais pas dans ces proportions-là.
Ouais.
Et mon entourage proche, ils voyaient bien que ça devenait préoccupant. Et encore, ils voyaient pas tout, puisqu'il y avait une partie que je vois... En plus, on apprend à boire tout seul et on apprend à se cacher.
Ouais.
Mais c'était une descente aux enfers qui commençait, là, si je continuais comme ça. Mmh.
Et justement, le déclencheur, vous nous le disiez, c'est vraiment cet examen médical, c'est quand ça a commencé
à se faire ressentir physiquement. Des douleurs au foie qui sont apparues. J'ai fait un bilan de santé qui m'a montré que donc, mon foie était en mauvais état. Les prises de sang étaient également très mauvaises. Et c'est là que j'ai décidé d'agir. Mmh.
Comment se sont passées les premières semaines sans alcool?
Ça a été parce que, en fait, en plus, je n'ai pris qu'un médicament. C'est pas un médicament qui coupe l'envie. Mmh. C'est un médicament... qui rend malade si on boit, c'est pas la même chose.
D'accord.
Il rend malade si on boit, donc il ne coupe pas l'envie. Et malgré ça, j'ai réussi assez bien et assez vite. C'est-à-dire, je n'ai jamais rebu, en fait. Mais j'avais besoin de savoir que le médecin addictologue et son infirmier étaient là. J'avais besoin d'un accompagnement.
Vous parliez tout à l'heure, en début de témoignage, du fait que votre père et que votre grand-père également buvaient. C'est ce qui a fait que vous avez considéré l'alcool comme un produit comme les autres, un petit peu anodin?
Alors, un produit qui a une place sociale importante.
Oui.
Une consommation que l'on valorise, une consommation entre copains. Une consommation au boulot, en fait, quelque chose qui est tout le temps là. Mmh. Et dès l'âge de 14-15 ans, l'un comme l'autre m'encourageait à commencer à consommer. C'était une norme sociale pour un homme.
Oui.
Donc, c'est sans doute pas le seul facteur, mais ça a joué.
Ça a beaucoup joué. Pour revenir aux relations avec les autres, puisque vous avez dit que ça fait 20 ans qu'on vous disait que vous buviez trop, avec du recul... qu'est-ce qui aurait pu faire que justement ce que les personnes vous disent, on dit souvent que ça ne sert à rien de dire à quelqu'un qui est dans une addiction, entre guillemets, de lui rentrer dedans ou de lui dire que voilà, ce que tu fais c'est pas bien, etc., etc., pense à ci, pense à ça, voilà, est-ce que avec le recul il y a une méthode ou il y a une parole ou il y a quelque chose qui aurait pu justement vous faire changer dans la manière dont les personnes essayaient de vous faire prendre conscience?
Je me sentais... Il y avait deux choses. Un, mes excès étaient ponctuels.
Oui.
Et deux, je... Donc, c'était pas tous les jours, loin s'en faut. Et deuxièmement, je voyais pas bien par quel moyen m'en sortir.
Oui.
Et est-ce que j'en avais envie? Je suis pas sûr. Cependant, pendant des dizaines d'années, donc, mes excès ponctuels ont abîmé mon lien aux autres. Avec ma famille et mes amis, ils ont abîmé le lien. J'ai eu de la chance de ne perdre personne.
Et ça s'est arrangé depuis que vous avez arrêté?
Non, parce que à la fin des consommations vraiment outrancières que j'avais, c'était seul.
Oui.
Donc j'abîmais le lien avec personne.
En quoi consistait votre suivi justement avec le XAPA? Voilà, comment ils vous ont accompagné, comment ils vous ont aidé sur cette période? Et qui continue d'ailleurs de vous aider dans cette...
Bon, tout d'abord un traitement pendant une semaine du Valium.
Ouais.
Hein, pour effectuer le sevrage. Ensuite, donc, un médicament qui s'appelle l'Espéral, qui m'a permis de l'avoir toujours sur moi. Je l'ai pris pendant 3-4 mois, un cachet par jour de mémoire, jusqu'au jour. Donc ça, c'était janvier. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, j'ai considéré que j'étais en reconstruction.
D'accord.
Et je prenais le cachet tous les jours. Le rendez-vous mensuel était pour moi un besoin impérieux.
Ouais.
De parler, d'être encouragé, d'être guidé. À partir de juillet, j'ai plus ressenti le besoin de le prendre tous les jours. Je l'avais sur moi. Là, j'ai considéré, et le médecin l'a confirmé, que je n'étais plus en reconstruction, j'étais en consolidation. Ce que je suis toujours d'ailleurs. Mais au fil des mois, on y pense moins, tout simplement.
Ouais.
Parce qu'on y pense moins, les habitudes changent. Et puis, on capitalise sur les effets bénéfiques.
Justement, les effets bénéfiques, on en vient.
Qu'est-ce que ça a changé pour vous depuis que vous avez arrêté justement la consommation d'alcool?
Avant de vraiment prendre le taureau par les cornes, il a fallu que je passe tout près du mur.
Oui.
Tant qu'on passe pas tout près du mur, voire qu'on y soit allé carrément, on n'agit pas. Ouais. Enfin, ça a été mon cas en tout cas. Tant que c'était ponctuel, de temps en temps, voilà, ou en tout cas que je sentais pas le mur, j'ai pas agi. C'est le jour où j'ai senti le mur. Le mur est arrivé. Mmh. Et vraiment, perdre mon permis, avoir un accident, arriver ivre au travail, c'est tout ça que je craignais.
Ouais.
Que mon fils s'aperçoive de quelque chose, qu'on me le retire.
Ouais.
Enfin, en tout cas, que ça mette en question ma capacité à m'occuper de lui, beaucoup de choses. J'ai senti le mur arriver. Vraiment. Une conduite très dangereuse. Et puis à la fin, une vie qui est guidée par l'alcool, par la recherche du produit.
Ouais.
Donc il a fallu que j'atteigne, si vous voulez, j'ai été dans le orange pendant 30 ans, 25 ans, là j'étais passé dans le rouge. Il a fallu que je sois dans le rouge pour agir. Même si les drails étaient déjà des premiers signaux de quelque chose qui allait changer peut-être. Parce que j'ai réussi à les tenir. Mais pour repartir de plus belle après, donc c'était pas une solution.
Ouais.
Donc il a fallu, j'insiste lourdement là-dessus, hein. Il a fallu que je passe dans le rouge pour agir.
Oui, des événements comme le dry sont peut-être bien ponctuellement, mais c'est pas suffisant.
Moi non, parce que je recommençais comme avant, ouais. Après, donc ça ne servait à rien en fait.
Mm-hmm.
Voilà, donc les effets bénéfiques, les économies.
Oui, l'alcool c'est cher.
Les économies, une perte de poids, une meilleure mine,
mm-hmm.
Plus de terrain nocturne. J'avais des terrains nocturnes à la fin. Plus le matin, la gueule de bois. Plus la, dans le tirage au boulot. Plus à me dire, est-ce que je peux conduire, est-ce que je peux pas conduire. Plus à me dire... dans mon bistrot, quel est le regard des gens quand j'ai descendu 5 pintes tout seul au comptoir. Le regard des gens. Tout ça, on le gomme.
Et comment ça se passe maintenant, vous, quand vous êtes dans une soirée avec des amis et qu'il y a de l'alcool? Comment ça se passe? Est-ce que maintenant, on sait que vous buvez plus? Est-ce qu'on essaie quand même de vous dire, allez, juste un petit...
Ça se passe? Donc, déjà, tout le monde n'a pas le même niveau d'information quant à ma démarche.
D'accord.
Alors, rares sont ceux qui savent. Des amis très proches savent. 2-3, c'est tout. Qui ne me jugeront pas parce qu'ils sont proches et puis souvent ils peuvent aussi, ils sont pas complètement nickel sur le sujet en plus. Donc,
ouais.
Alors au début c'était, bon je fais le dry January pendant un mois. C'est quelque chose que maintenant les gens connaissent, donc ils comprenaient. Ensuite, ça c'était janvier l'année dernière. Ensuite février, mars, avril, mai, je buvais toujours pas. Là ça a commencé à dire, mais tu fais quoi en fait là? T'es chiant, pourquoi tu bois pas un coup? T'es rabat-joie.
Ouais. Mmh.
Ensuite, l'été passe. Et là, maintenant, même les points durs, ceux qui comprenaient pas, sont en train de s'estomper. Il ne faut pas céder. Je sais que ça continue à déranger. Et oui. Notamment pour l'effet miroir que ça peut faire chez certains.
Oui.
Ça leur renvoie à eux leurs propres excès.
Non, mais ça, c'est très intéressant. Du coup, les personnes qui vous voient, vous, comme...
En solo, ah bah, pour la femme.
En pleine forme, des belles nuits, du fric.
Est-ce que vous vous estimez guéri?
Je serai jamais guéri. Ce sera une vigilance de toute ma vie.
C'est dur, ça.
Non, on apprend à vivre avec.
On apprend à vivre avec.
Comme des gens apprennent à vivre avec le cholestérol, comme des gens apprennent à vivre avec un état dépressif, comme des gens apprennent à vivre avec un handicap, comme des gens apprennent... On apprend à vivre avec des choses. Et c'est pas si lourd que ça. Loin de là. Loin de là.
Quel conseil vous donneriez, vous? Vous l'avez déjà dit tout à l'heure, vous l'avez abordé, vous avez esquissé déjà un début de réponse, mais à quelqu'un qui serait dans la même situation dans laquelle vous trouvez, vous, il y a un peu plus d'un an, qu'est-ce que vous lui diriez? Et puis, qu'est-ce que vous pourriez dire aussi à son entourage, à ses proches, qui souhaiteraient l'aider, mais qui le font peut-être maladroitement?
Bien, la bonne porte d'entrée, c'est le médecin traitant.
Mmh.
En fait, vous savez, je me suis étonné de la facilité des choses. J'en parle à mon médecin. Une minute après, j'avais le numéro de téléphone de l'addictologue.
Ouais.
Elle m'a dit, vous y allez. Elle avait la réponse sur le champ. C'est-à-dire, on n'a pas mis 15 jours, 3 semaines à chercher, tiens, quel est le bon interlocuteur, faut aller où, c'est qui? Elle l'avait sous la main.
Ouais.
Il suffisait que je le dise. Elle l'avait sous la main. Ça a été immédiat, la réponse. Et la bonne réponse. Il suffit de s'exprimer. Alors, évidemment, une des parties dures, c'est que ceux qui vous ont vu boire depuis 25 ans et qui vous voient brutalement ne plus rien boire du tout, évidemment, ça doit faire parler.
Ouais.
Et ça, faut l'accepter. S'il boit plus, c'est qu'il buvait trop. Moi, j'utilise toujours l'argument de l'excès de poids. Mais évidemment que ça fait causer. Un changement d'attitude brutal fait toujours causer.
Et puis, vous êtes peut-être quelqu'un de différent aussi. Parce que des gens qui avaient l'habitude de vous voir quand vous buviez, peut-être avec un être, je ne sais pas, un peu plus joyeux, festif. Alors, je mets tout ça entre guillemets, bien sûr. Est-ce qu'ils se disent que en ne buvant pas, vous êtes une personne différente?
Je crois pas.
Non.
Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je ne crois pas et puis je sais pas le retour que j'ai eu.
Ah justement, quel retour avez-vous eu pour l'instant? Que des retours positifs?
Il y en a pas tant que ça en fait. C'est vis-à-vis de moi-même surtout.
Ouais.
Je vous dis, les grandes outrances finales, c'était moi avec moi-même. Mmh. Le jour où j'ai vu la période où j'ai vu le mieux rapprocher. Et vous avez la dégringolade, hein, je vous ai donné les étapes. Hein.
Oui, tout à fait. Est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose qu'on n'a pas dit? Vous nous avez déjà dit beaucoup de choses. Hein. Le chemin de l'arrêt aussi, qui est toujours compliqué.
Ça l'a pas été tant que ça.
Oui, vous dites que ça ne l'a pas été tant que ça.
Non, ça a été. Mais j'avais besoin, il était indispensable que j'ai un suivi au moins une fois par mois, juste pendant les 6 premiers mois. Alors après, c'est mon fonctionnement à moi, chaque patient est différent. Si je n'avais pas dans les 6 premiers mois le suivi hyper rapproché, ben oui, le risque était très grand que je rechute.
Mmh.
Ce n'est qu'au bout de 6 mois que j'ai atteint un palier. Quand on est sur un palier, on glisse plus.
Mmh.
Quand on est sur la pente ascendante, le risque est toujours là que ça fasse marche arrière. Que ça glisse. Quand on est sur le palier, on ne glisse plus. Ouais. Palier, j'ai mis 6 mois à l'attendre.
Mais vous restez vigilant, comme vous l'avez dit.
Même les fêtes de fin d'année, il a fallu que je me prépare à rien boire.
Ah bah oui, parce que là, on voit tout à fait la scène, hein. D'une, ouais. Je ne sais pas, de fête de Noël ou le jour de l'an.
Exactement.
Voilà, elle a une petite coupe de champagne parce que c'est justement le...
La nouvelle voilà, année. C'est celui qui ne boit rien. Également, j'ai pris l'habitude, lorsque je suis invité à déjeuner ou à dîner, de prévenir la veille, je ne boirai rien.
Mm-hmm.
Comme ça, les gens ne sont pas interloqués. Et deux, ils prévoient un plan B.
Ouais.
Je préviens. Parce que comme ça, la pression est beaucoup moins forte le jour J. Ouais. Non, si vous n'avez pas prévenu, il n'y a que de l'apéro et de la bière sur la table. On fait comment?
Mm-hmm.
Entre la surprise de l'interlocuteur et le fait qu'il n'a pas prévu à autre chose, c'est beaucoup plus dur à gérer. Ouais. Donc je préviens.
Ouais, c'est vraiment rentré dans toutes vos habitudes et puis
vous anticipez maintenant même ça.
Ouais.
Et tout mon cercle, mes cercles relationnels qui sont assez variés, désormais en 12 mois, cette nouvelle habitude est entrée dans tous mes cercles relationnels, familiaux, amicaux, divers et variés.
Merci en tout cas d'avoir témoigné pour nos auditrices et nos auditeurs, hein, dont certaines vont certainement se retrouver en tout cas dans ce que vous avez dit, dans ce que vous avez livré. Alors on le sait pour avoir déjà reçu beaucoup de témoignages ici depuis plus de 20 ans que la radio existe, que c'est pas facile de témoigner quand même au grand public. D'ailleurs, je n'ai pas donné votre prénom, votre voix est modifiée. Donc voilà, c'est parce que vous avez souhaité donner votre témoignage, mais garder aussi votre anonymat.
Oui, absolument.
Voilà.
Mm. Mais je suis fier de ce que j'ai accompli.
Mm.
Il faut savoir aller chercher de l'aide dans la vie. S'il y a un mot de la fin, c'est celui-là.
Il faut savoir aller chercher de l'aide. Ouais. Merci beaucoup.
On a le droit, je vais terminer.
Oui, allez-y.
On a le droit de ne pas réussir à gérer sa consommation. On a le droit. On a moins le droit, je trouve, de se dire « je vais pas chercher de l'aide ». Ça, on peut le faire.
Surtout qu'il y a des gens pour aider.
Voilà. Ne pas oublier que le suivi dont j'ai bénéficié depuis un an est gratuit.
Mmh.
Totalement gratuit. Je n'ai pas déboursé 1 euro.
Merci beaucoup pour votre témoignage.
Je vous en prie.
Listen, baby. Ain't no mountain high. Ain't no valley low. Ain't no river wide. You don't have to worry, 'cause baby, there's
Vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Comme tous les mercredis, bien sûr, on se retrouve de 17h à 18h pour vous parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. On termine cette émission, comme d'habitude, avec notre Minute Conso par Pierre Joanet. C'est parti.
La Minute Consommateur avec Pierre Joanet.
Bonne nouvelle pour les consommateurs harcelés par les démarcheurs. Depuis le 1er janvier, il devrait être un peu plus tranquille. L'ARCEP a interdit certains types de numéros de téléphone aux sociétés commerciales en général et aux plateformes de démarchage en particulier, qui ne pourront plus les utiliser pour appeler en masse et envoyer des SMS non sollicités. La décision de l'ARCEP interdit aux sociétés d'utiliser des numéros commençant par 06 ou 07. L'utilisation des numéros dits géographiques, commençant par 01 à 05, en fonction de la région d'où ils proviennent, est également limitée à certains numéros. Les numéros commençant par 0937, 0938 et 0939 seront réservés aux plateformes techniques et les démarcheurs devront utiliser les numéros débutants par 0948 et 0949, 0162 et 0163, 0270 et 0271, 0377 et 0378, 0424 et 0425, ainsi que 0568 et 0569. Autre évolution en ce 1er janvier, l'interdiction du démarchage lié au compte personnel de formation. La violation de cette disposition est passible d'une amende pouvant s'élever à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Le démarchage reste autorisé s'il est lié à une action de formation en cours entre le titulaire du compte et l'organisme de formation. L'UFC que choisir a regretté, après le vote des députés, que la législation prenne le gigantesque problème du démarchage non sollicité par le petit bout de la lorgnette. Après avoir interdit le démarchage dans le domaine de la rénovation énergétique et encadré celui sur les assurances, cette fois c'est le marché de la formation qui est visé, observe l'association. Elle regrette que ces restrictions interviennent à chaque fois tardivement, après que des milliers de victimes se sont fait avoir, et estime qu'il serait bien plus efficace d'interdire purement et simplement le démarchage non sollicité, comme elle le demande depuis des années.
Marmite fait son actu, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur le 88.4. Prochain direct, c'est ce soir à 20h, l'Antisèche avec Julien et toute son équipe, donc 20h pétante. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau direct de 17h à 18h. Et d'ici là, prenez soin de vous.
Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite et son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.